Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Des citoyens réunis pour enlever leur argent des banques et l'investir dans des terres qu'ils louent à bas prix à de petits paysans. Des humains qui se relient aux animaux et à la nature et y retrouvent du sens. Des femmes noires qui assument leurs cheveux crépus, des travailleuses du sexe qui font leur coming out auprès de leurs parents. Voilà ce que vous allez entendre dans cette petite série toute cette semaine dans les pieds sur terre quartier d'été. On a cherché pour vous des initiatives, des idées, des solutions, des propositions pour changer le cours des choses, infléchir le destin, inverser les courbes, pour trouver un point d'eau, une oasis, sauver le monde en somme, fût-il un petit monde. On a trouvé des gens qui portent des projets pour agir sans attendre qu'on le fasse à leur place, en plus de protester, de crier sa colère et de dire son malaise. Tout de suite, c'est le premier épisode de cette petite série pompeusement intitulée « Changer le monde », mais où on n'entendra que des gens modestes et ambitieux qui œuvrent pour le bien commun, qui tentent de trouver des solutions pour répondre aux crises climatiques, sociales, éducatives, sanitaires et environnementales. Ça commence à Languidic, près de Lorient, dans le Morbihan. Ce sont des centaines d'oiseaux, d'animaux, jusqu'aux plus minuscules des rongeurs, qui sont littéralement sauvés dans ce centre qui s'appelle Volée de Piaf. Tout de suite, dans les pieds sur terre, par Inès Leroux, les pieds sur terre, quartier d'été. C'est parti pour tout l'été.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Hop là, pardon. Donc ici, ça c'est mon atelier, puisque moi il faut que je bosse aussi en atelier. Alors, les fous de bassin ne mangent que des maquereaux. Par contre, on va parler tout doucement, parce qu'on les stresse énormément. Là, c'est un jeune qui a 1 an.
Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ?
Oh ben, un coup de tempête, déstabilisé par les rouleaux. Comme il était faible, bon, il n'a pas réussi à s'en sortir. Voilà. Donc, de toute façon, la plupart de tous ces oiseaux marins qui arrivent ici, c'est que en mer, il n'y a quasiment plus rien à manger. C'est pas pour rien que les goélands arrivent en ville, c'est qu'en mer, il n'y a rien, et ainsi de suite. Donc là, nous, on va le soigner, on va le remettre en état et tout, en espérant que quand il va arriver, il va se retrouver en mer, il retrouve quelque chose à manger. Donc,
Vous pouvez le décrire ?
Le fou de bassin est un animal qui fait 2 kg à peu près, qui a 1,80 m d'envergure, donc c'est assez grand. Le bec fait 15 cm de long. Il a des narines, mais intérieures, pas extérieures, de manière à pouvoir plonger de 80 mètres de haut. S'il avait des narines, il exploserait. Et puis, plumage tout noir pour la première année, et moucheté de blanc, comme des étoiles. C'est vraiment la Voie lactée. C'est un animal assez fabuleux, quoi. Donc là, je vais lui donner à manger. Et voilà. D'ici un mois et demi, il va être relâché en mer. Là, on va lui fiche la paix parce que il secoue la tête, c'est le stress. Donc, on va lui fiche la paix. Donc, on est quand même sur 70% des animaux qu'on a ici. C'est dû à des causes humaines. Donc, c'est énorme. Je vais commencer à regarder un petit peu, en tant que trottineur de bord de plage, ce qu'il y avait comme faune et flore, mais j'y connaissais rien du tout. Et en 99, le 25 décembre 99, est arrivée la marée noire de l'Erika. Et là, ce jour-là, je suis descendu sur le port d'Etel, parce qu'on savait qu'il y avait eu quelque chose, mais on s'imaginait pas ce qu'il y avait vraiment. Et j'ai donné un grand coup de pied dans une grosse boule de fioul qui était sur le port d'Etel, c'était un guillemot.
C'est-à-dire ?
Petit pingouin, 100% mazouté, encore vivant. Donc là, j'ai mis le petit pingouin plein de fioul dans mon camion, puisque je suis artisan, donc j'avais ma camionnette. Et c'est-à-dire que la vie, elle a changé complètement. Elle a complètement basculé, et du jour au lendemain, ça a été, à partir du 26 décembre, j'ai demandé au maire de l'époque de m'ouvrir la criée qui était désaffectée. pour récupérer tous les oiseaux morts et vivants qu'on pouvait trouver sur toutes les plages aux alentours. J'ai demandé à un ami qui avait un porte-voix et qui faisait de l'animation de tourner avec son porte-voix et sa voiture dans Etel pour dire que Didier attendait du monde pour récupérer des animaux. Et en même pas une heure, on était 80 et on s'est retrouvé à entre 200 et 300 personnes en une journée. Et on a récupéré plusieurs milliers d'animaux comme ça, quoi. Ouais. Bretagne Vivante avait ouvert un centre de soins et un centre de démazoutage. Donc moi, je les amenais tous les soirs avec ma camionnette là-bas. Il y avait un vétérinaire belge qui était sur place et je lui demandais comment ça marche. Donc tous les soirs, j'avais un cours sur l'intérieur, l'extérieur de l'oiseau. Comment ça marche, comment ça digère, comment ça vole, comment ceci, comment cela. Et le lendemain matin, quand j'arrivais à Etel, je disais aux gens, stop, avant qu'on bouge, tableau noir, voilà comment ça marche. Donc, plusieurs mois à l'Erika, ensuite recommencer à travailler, ensuite un mois et demi en Afrique du Sud sur une autre marée noire, ensuite recommencer à travailler, et ainsi de suite. Donc avec Marie, donc ma compagne que j'ai connue en 2003 sur la marée noire du Prestige, on a décidé, au lieu d'acheter une maison, d'acheter un terrain et de créer un centre de soins. Donc on a acheté tout ça, 9 hectares, pour créer une asso, Volée de Piaf. Voilà. Et tout l'argent qu'on a est passé là-dedans.
Tout votre argent de côté?
Ouais, il n'y en a plus. Donc on habite en mobilhome, hein. Faut se le dire. Un jour, peut-être qu'on arrivera à restaurer une maison, mais bon... Il y a tellement de choses à faire que c'est quasiment ingérable. Parce que, bon, moi je suis bénévole, je suis artisan à côté, donc il faut bosser et l'artisanat et le centre de soins. Donc, oui, il faut tout faire. Donc là, Morgane vient d'arriver.
Bonjour.
Morgane, notre soigneuse.
Je peux continuer les soins avec toi?
Oui. Ça, c'est deux petits pigeons qui, visiblement, se sont mis à manger tout seuls de manière correcte, ce qui n'était pas le cas encore tout à fait avant que je parte en repos.
Et est-ce que tu sais d'où ils venaient, ces pigeons?
Ces pigeons venaient de Rennes. C'est deux pigeonneaux qui sont tombés du nid pour une raison qu'on ignore, mais qui ont été ramassés et ramenés ici.
Donc des pigeons des villes, des rues, que parfois des gens essaient d'éradiquer.
Oui, c'est ça.
Et vous soignez des pigeonneaux tombés du nid?
Nous, on soigne tout le monde. Ils sont tellement mignons en plus. Il n'y a pas de raison pour nous de faire euthanasier des animaux comme ça, sous prétexte qu'ils ne plaisent pas à certaines personnes. Donc non, pas de délit de faciès chez nous, on prend tout le monde. Donc là, je remets juste leur gamelle propre. Donc, aujourd'hui, c'est un peu dommage pour tous ceux qui n'aiment pas les pigeons, parce que avec les hérissons, en ce moment, on n'a que ça.
Et pourquoi il est arrivé, ce hérisson?
Alors, visiblement, c'était un ramassage. En fait, à cette période-là, on n'est pas censé trouver des petits. En théorie, les naissances, elles ont lieu au printemps. Sauf que, comme personne ne l'a remarqué, le climat n'est pas du tout bouleversé. Et du coup, on a des hérissons qui naissent en hiver. La maman, comme elle a senti le froid arriver, elle se met à hiberner. Sauf que les petits, ils peuvent pas hiberner. En fait, un petit, c'est censé manger toute la journée pour grandir. Et eux finissent par sortir du nid, parce qu'ils sont complètement désemparés, qu'ils ont faim. Et c'est comme ça que les gens les trouvent. Donc c'est probablement ce qui s'est passé pour ce petit. Et pour beaucoup de petits qu'on a récupérés là, il n'y a pas très longtemps. Parce que la pièce d'à côté, en fait, elle est pleine de petits hérissons comme ça.
Quand on a ouvert le centre de soins, à l'origine, c'était prévu, ça s'appelle Volée de Piaf, c'était uniquement les oiseaux. Donc on a ouvert un centre de soins Volée de Piaf pour oiseaux, mais qui était prévu pour accueillir au grand maximum 400 animaux sur l'année. La première année, en 2007, on en a accueilli 225. En 2008, 450. En 2009, 900.
Et aujourd'hui?
3500. 3500 par an. Donc c'est devenu complètement starf. Et là, en plus, petit à petit, j'ai voulu ne pas m'arrêter aux oiseaux, parce que les autres, il fallait bien les soigner. Mais il fallait du coup les connaître et puis passer les certificats de capacité. Du coup, on accueille ici tout ce qui est oiseaux, donc oiseaux terrestres, oiseaux marins, tout ce qui est chauves-souris, tous les chiroptères, petits mammifères, mammifères carnivores, renards et ainsi de suite, blaireaux, martres, fouines, et puis phoques et veaux marins. Donc on a quand même une panoplie d'animaux qui peuvent arriver ici assez énorme.
On va aller sur les goélands.
Ouais, ok, bon, j'arrive.
Et vous vous appelez comment ?
Marion.
Vous êtes bénévole ?
Oui, bénévole depuis bientôt 7 ans. Alors, je viens 3 fois par semaine, le lundi matin, mercredi matin et vendredi matin. Ouais. Après, il y a besoin. Nous, pour faire l'exercice.
Donc, hop, je descends. Pas évident ici. Hein.
Donc là, le système est tout simple, c'est que 2 fois par jour, on a une volière de rééducation des goélands, et 2 fois par jour, on leur fait faire des exercices. Ce sont des animaux qui ont eu soit des fractures de pattes, des fractures d'ailes, des chocs voitures, chocs divers et variés. Quoi. Donc ils sont passés en infirmerie, ils sont passés en cabanon, et puis après, ils passent en volière, et jusqu'à temps qu'ils puissent redémarrer comme il faut, ils sont en rééducation. Donc avant le nourrissage, on les fait courir, on les pousse à forcer sur leurs ailes et sur leurs pattes, de manière à ce que on puisse voir l'évolution de semaine en semaine. Quoi. Donc il y en a certains, malheureusement, qui n'arrivent pas à évoluer, qui ont des blocages d'ailes, et pour lesquels, au bout d'un moment, on est obligé de prendre des décisions. On les fait endormir et euthanasier par les vétérinaires. Quoi. Donc là, on va continuer, mais on est très très patient, donc on le fait assez longtemps, ça. Ils peuvent rester, on en a relâché au bout de 3 ans, quoi. Donc là, on y va, on est parti. Donc on fait ça à 2. Il y a une personne qui les rabat et l'autre qui les pousse à voler, qui les embête. Allez bébé, on rentre. Allez, vas-y, 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 doucement. Voilà, c'est bien. Allez, allez. Ils attendent que ça en plus. Voilà. Allez, allez, allez. On tire sur les ailes. Allez, allez le gros. Voilà. Allez, à toi. Allez, toi aussi, tu dois y arriver. Allez. Voilà, et on recommence. Allez, allez, allez. Ouais, ouais. Voilà, il y a toujours les feignants qui veulent passer par une autre route. Allez, les titis. Allez, allez. Allez, allez, allez. Pousse, pousse, pousse. Allez, à toi. Allez, 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 allez. Allez, pousse, pousse. Merci, Marion. Allez,
allez. Maintenant, je vais faire les volières du bas. Je ne sais pas si...
Ouais.
Oui.
Faites quoi à côté ?
Je fais que des bénévolats. Je fais aussi les Restos du Cœur l'hiver. Je suis reconnue adulte handicapé, j'ai une pension et puis le bénévolat me permet de me reposer, d'annuler en fait une journée où je vais venir si je suis pas en forme quoi.
Et qu'est-ce que vous avez comme handicap ?
Alors c'est une maladie musculaire, une fibromyalgie. C'est une maladie qui atteint les muscles principalement, qui va se présenter sous des formes de raideur ou de douleur musculaire au quotidien. Donc il faut apprendre à gérer, et puis voilà, le bénévolat, c'est très bien pour ça. Donc ça, c'est la plus grande des volières, elle fait 26 mètres. Et on va aller chez les rapaces diurnes. Donc ici, ça va être bus, faucon, épervier, mais je crois qu'on a pas besoin. De l'eau vinaigrée pour désinfecter un peu, que je vais laisser sécher parce que de toute façon on leur donnera à manger que ce soir. Donc on passe à la volière des écureuils. Ils ont l'air d'être tous réveillés ce matin. Alors ce sont des écureuils qui ont été élevés au biberon, donc il y a une légère imprégnation mais qui semble être déjà passée.
Imprégnation de l'homme.
Oui. Donc en fait, là, ils restent pas près de nous, donc c'est bien. Donc là, je vais remettre un petit peu de vin. Alors, une fois qu'ils seront prêts, il y a des petites portes qui vont être ouvertes là. Ils pourront partir et revenir pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où après ils trouvent l'endroit idéal pour eux dans la nature. Quoi.
Et ils reviennent plus.
Et ils reviennent plus. Non. On n'aura pas eu de la pluie déjà.
Ah, merci beaucoup.
De rien.
C'est l'heure de la pause café.
C'est la pause café là. Oui. C'est pour ça que je fais attention de ne pas faire trop de bruit parce que avec le marteau ça fait trop de bruit. Les pauvres. Hein. Attends. Oh, c'est gentil comme toi.
Vous êtes en train de casser des noisettes.
Des noisettes et des noix. Pour les petits mammifères, pour les écureuils, pour les petits hérissons. Alors, vous voyez, je mets des noix et je fais aussi des noisettes de façon à bien mélanger. Et on met aussi des abricots dedans, la nourriture pour chat, les petites croquettes de chat, des raisins secs hein, qu'on mélange bien pour vraiment que ça, qu'ils puissent les manger. Vous voyez,
et voilà. Vous appelez comment ?
Nicole. Nicole, et ça fait 20 ans que je connais Didier et que je suis à la sauce.
Vous l'avez connu comment ?
Pendant les ricas. On allait emmener des oiseaux à Didier et c'est comme ça qu'on l'a connu. On a été au bureau, maintenant on est un peu plus âgé, donc on essaie de. Mais on est toujours transporteur. Si on nous appelle, on habite sous la côte. Si on nous appelle, on va chercher les oiseaux ou un animal qui est en détresse et on les emmène ici.
Vous avez quel âge ?
Moi, je vais avoir 75 ans. Dans le temps, je viens, je me dis, tiens, je vais l'aider parce que je sais qu'ils ont beaucoup besoin, il y a beaucoup d'animaux. Donc, c'est pour ça que les bénévoles sont très, très importants pour la sauce. Très, très importants.
Et vous faites quoi, vous ?
Moi, quand je viens, je vois ce qu'il y a à faire. Vous voyez, là, aujourd'hui, je casse les noix, je casse les noisettes. Autrement, je fais de la vaisselle s'il y a de la vaisselle. Je regarde ce qu'il y a à faire. La vaisselle, couper du poisson.
Vous accueillez tous les animaux qui arrivent ici ?
Tout ce qui est faune sauvage en détresse. Voilà. C'est-à-dire que on est antispéciste. Donc on ne veut pas faire de différence entre les espèces. On ne soigne pas une espèce particulière, on soigne un individu à chaque fois. Donc nous, on soigne des pigeons, on soigne des tourterelles, nous amène des bébés musaraignes. Le dernier, elle a été relâchée. Elle est arrivée, elle faisait 1,5 g à peine. Il faut les biberonner quand même, la bébé musaraigne, la première nuit, c'était toutes les heures. Hein. Il faut être un peu barge. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez une personne qui vous appelle en disant « Je suis sur un trottoir, il y a un bébé rat avec une patte avant qui va pas bien, il pigne. » Il y a deux possibilités, trois possibilités, ou bien vous passez votre chemin, ou bien vous lui écrasez la tête, ou bien vous nous l'amenez. Bon, les gens, ils font 40 bornes pour nous l'amener. C'est même pas un effort qu'ils ont fait. Ils l'ont fait parce pour eux, c'était vital de le faire. Donc c'est logique que moi, derrière, je continue. Quoi.
Donc vous avez soigné le bébé rat ?
Ouais, puis on l'a relâché. J'ai été le relâcher tout au fond de la forêt, là, dans un coin où il a de quoi manger, puis il va pas venir nous enquiquiner quand même. Donc, mais oui, puis Ratus, il est resté, je sais plus, une dizaine de jours ici. Donc sa patte avant, c'est rien, c'est une luxation, donc c'est pas dramatique, ça s'est refait. Ensuite, il y a tout le reste. Alors, on vit principalement grâce aux dons et aux adhésions, hein, comme tout assos. On rame, parce que on a très, très peu au niveau, justement, subvention. Donc après, on compte sur les dons, les adhésions. Et en même temps, c'est un gros avantage. C'est que plus on va avoir de dons et d'adhésions, plus on va avoir de gens, plus on va être libre. Si je disais au début, on est antispéciste, c'est-à-dire qu'on accueille des renards, on accueille des martres, des fouines, des blaireaux, tout ce qui traîne.
Les animaux qui sont beaucoup chassés parce qu'ils sont considérés comme nuisibles.
Voilà, il y a les animaux chassables, les animaux nuisibles. Si vous allez dans le centre de soins Charente Nature, ils ne peuvent ni accueillir les chassables, ni les nuisibles. Parce que c'est le département de la Charente, la région Charente, qui les finance. Et ils veulent pas dépenser de l'argent là-dessus. Nous, on veut rester libre. Et les gens savent une chose toute bête. Depuis 11 ans, on n'a pas payé un seul acte vétérinaire. C'est énorme. Ce qui veut dire que les vétérinaires des alentours ont compris notre politique et la manière dont on regardait les animaux et ne se sentent pas nous faire payer un acte. Donc on récupère du poisson, je vais au port de Lorient. Je peux récupérer entre 200 et 600 kilos de poisson par jour, tellement il y en a de jetés. Bon, faut arrêter. Quand on nous dit que les goélands vident la mer, non, c'est pas les goélands, c'est pas qui vident la mer. Ils n'ont pas les filets qui raclent partout, ils n'ont pas des filets électriques, les goélands. De temps en temps, on fait des journées caddies dans les supermarchés pour récupérer des raisins secs. Il nous faut des abricots secs, il nous faut des boîtes pour... on a 450 ou 500 hérissons par an. Donc il faut les nourrir avec des boîtes spécifiques, avec du lait spécifique. Donc on rame beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on essaye de... Malheureusement, on fait tout nous-mêmes. Donc on est obligé d'être 7 jours sur 7. Et avec des horaires... complètement barjot, parce que quand c'est la période des biberons, moi je dors 2 fois 2 heures par nuit. Donc pendant 3 mois d'affilée.
On connaît Didier avant, on lui a amené des animaux aussi avant. Maintenant qu'il y a le refuge, on a commencé à faire le refuge avec lui. On est venu aider pour faire toutes les volières et tout. On a toujours été là pour quand il y a eu besoin. Et je suis aussi à la Amicale des donneurs de sang à Doray. C'est pour donner son sang. Je suis aussi à la bénévole là. Voilà. On est de Pouarnel, nous, à côté de la côte de Carnac. Donc je vais pratiquement tous les jours, au moins 3-4 fois par mois l'hiver, me baigner. On a été jusqu'à 6 degrés se baigner. Et c'est vrai qu'au départ, ça vous fait froid, votre corps il fait quand même 37 degrés. Et on va à Carmigny, la plage naturiste.
Ah, vous allez sur une plage naturiste?
Oui, oui, tout à fait.
Donc vous vous baignez toute nue?
Oui, toute nue. Bon, oui, on est tous pareils. Hein. Et on fait pas, si vous voulez, on n'a pas d'a priori de riche, pauvre, moins pauvre, une jambe de bois, quelqu'un qui a été opéré d'un sein, d'un cancer. On n'a pas le regard sur les autres. Et moi qui ai été élevée par les religieuses en orphelinat, qui à 20
en
ans...
En orphelinat?
Oui, oui, de 8 mois à 14 ans. J'étais vraiment à me mettre un maillot de bain, mais un grand maillot de bain pour tout me cacher. Je me cachais. Je faisais encore la croix sur le pain pour le bénir. Je priais le bon Dieu qu'il fasse une vie meilleure ou autre. Et depuis, je me suis toute libérée de tout ça. Je suis mieux. Je suis naturiste. Je n'ai aucune honte. Vous m'auriez dit à 20 ans, tu te mettras toute nue, je ne dirais pas, non. Pour moi, c'était incroyable, impossible, impossible, impossible.
Et qu'est-ce qui fait que vous êtes devenue naturiste?
Ben non, comme ça, parce que je... Ah, mon mari me dit souvent, ah, si les bonnes sœurs te verraient, ma chérie, ben je dis oui, oui, ben elle me dirait, oh, madame, mademoiselle Ordronneau, c'est pas bien. Parce que je m'appelais Ordronneau, je suis de l'Andévent. Une fois, mon mari, on était dans un petit creek à Belle-Île, on allait à Belle-Île en vacances, et puis il me dit, viens me rejoindre, il avait enlevé son maillot, qui était sur un petit rocher, et je trouve qu'on est libéré de tout, quand on est toute nue dans l'eau, c'est formidable. Il faut essayer une fois pour le comprendre. Bon, je range ça, parce que moi, il faut que je range tout le bazar que j'ai fait.
Le plus beau moment, c'est le relâcher de l'animal. Nous, à chaque fois qu'on relâche un animal, déjà, j'associe tout le monde. C'est-à-dire que on appelle les bénévoles, on appelle les volontaires en service civique, même pour relâcher des pigeons, quoi. S'il y a du monde ici, systématiquement, on appelle les gens à venir assister au relâcher. C'est le plus beau moment qu'on puisse avoir. Il n'y a pas mieux que ça. Les voir partir, et je vais vous dire combien de fois on a... quand on relâche 100 goélands sur la plage, qui sont dans le camion, on ouvre les portes du camion et vous avez 100 goélands qui s'envolent d'un seul coup, on a tous le ventre qui se tord. Parce qu'il y a le relâcher, et en même temps, le relâcher, mais dans quoi ? C'est-à-dire qu'on les relâche dans une société qui est tellement, tellement contre eux. que, eh ben, on a ces deux côtés-là qui nous font mal au ventre. C'est le bonheur du relâcher et la peur de ce qui va leur arriver. Là, on va relâcher une jeune chevreuil, là, qui est en enclos, dans un grand enclos de 300 mètres carrés. Je vais l'ouvrir, là, cette semaine, mais je vais l'ouvrir avec la peur au ventre. Parce qu'il y a les chasseurs derrière, parce que elle n'est pas aimée, quoi. Mais c'est fabuleux, fabuleux. Quand on relâche un martinet, les filles, cette année, je ne sais plus combien de martinets elles ont élevé. Un martinet, on le relâche, il fait 40 grammes. On sait qu'il va partir en vol, sans jamais se poser, pour 1 voire 2 ans. Et quand on relâche un martinet, souvent, ouais, on a le ventre qui se serre. Parce que celui-là, on se dit, pépère ou mémère, t'es parti pour 2 ans, sans jamais te poser. Et tu peux aller vivre à 9000, 10000, 15000 mètres d'altitude. C'est monumental. Et on peut pas se décourager, c'est pas possible. On a des moments de faiblesse, mais pas de découragement. Non, non, ils sont trop beaux, ces bestiaux.
Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été, avec volet de Piaf, premier volet d'une petite série pompeusement intitulée Changer le monde, signé Inès Léraud, réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Didier, Morgane, Marion, Nicole, Benjamin et toutes les personnes en service civique du centre depuis la première diffusion de cette émission en décembre 2018. Sachez que l'association a accueilli en 2019 4049 animaux, un record, et que pendant le confinement, 867 animaux ont été pris en charge, soit autant que l'année précédente quand il n'y avait pas de confinement. C'est une évolution formidable, mais difficile à suivre parfois, nous expliquent les responsables de l'association, faute de financement suffisant. C'est Camille Richir, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Sarah Djiriwi, notre stagiaire.
I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, he must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for more? Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned